Inter, le 18-20.
Demain, 22 février, sera la journée européenne des victimes. L'occasion pour nous ce soir de faire le point sur les différentes actions d'accompagnement et de soutien aux victimes. Victimes d'attentats, de catastrophes naturelles ou d'accidents dits majeurs. Un secrétariat général à l'aide aux victimes est enfin créé, censé pérenniser et poursuivre tout ce qui avait été mis en place, parfois improvisé, après les attentats du 13 novembre. Les attentes et les besoins, on l'a vu, sont immenses. Aide médicale, psychologique, financière ou simplement administrative. Alors quelles sont les prérogatives de ce nouveau secrétariat, son périmètre d'action? Quelle aide concrète apporte-t-il aux victimes et à leurs proches? On pose toutes ces questions et on attend toutes les vôtres, vos témoignages, victimes ou pas, dès maintenant au 01 45 24 7000, sur internet franceinter.fr et sur Twitter, hashtag Telson.
Michaël Thébault, le téléphone sonne.
Et tout de suite au standard de France Inter, c'est Eric qui nous appelle du Var et qui ouvre ce téléphone sonne. Bonsoir Eric, soyez le bienvenu.
Merci, bonsoir. Ma question est la suivante, je voulais savoir comment se détermine et qui établit le statut de victime. Parce que moi j'habite dans le Var et à proximité il y a Vintimille. À Vintimille, il y a des jeunes mineurs qui sont en situation de détresse complète. Est-ce qu'on pourrait leur attribuer un statut de victime? J'aurais voulu savoir comment s'attribue le statut de victime.
Eh bien, écoutez, on est pile dans ce téléphone sonne pour vous répondre. Trois invités ce soir. Juliette Méadel, secrétaire d'État à l'aide aux victimes. Bonsoir madame.
Bonsoir.
À vos côtés, Stéphane Jiquel, secrétaire général de la FENVAC, la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir Thierry Bobet, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Paris 13, chef de service à l'hôpital Avicenne, responsable, on va y revenir, de la cellule d'urgence médico-psychologique de Seine-Saint-Denis. Madame la secrétaire d'État, la première question d'Éric vous est directement adressée. Comment et qui établit le statut de victime?
Alors d'abord, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que seules les victimes d'attentats terroristes bénéficient d'une protection juridique qui est celle de ce qu'on appelle le statut de victime civile de guerre. S'agissant de ces jeunes enfants dont votre auditeur fait état, il s'agit bien sûr de victimes, de migrants, mais qui n'ont pas le statut de victime d'attentat. Et alors, en France, nous avons évidemment des processus de prise en charge, d'accompagnement, l'OFPRA s'en occupe, et comme ce sont des mineurs, ils sont protégés et par les conseils départementaux, puisque étant mineurs, ils relèvent de la compétence des conseils départementaux, et d'une manière générale, ils sont protégés parce que ce sont aussi ce qu'on appelle ça des partenaires faibles, y compris des partenaires faibles du droit. Nous agissons pour faire en sorte qu'ils aient une prise en charge qui démarre évidemment en termes de santé, en termes d'accompagnement psychologique, et qui permet aussi qu'ils soient logés. Et c'est le sens notamment de ce que nous avons fait au gouvernement en créant notamment les CAOMI, qui sont ces centres d'accueil pour les mineurs migrants, et qui leur permettent d'avoir un environnement particulier et spécifique.
Alors ça, c'est autre chose. Mais on le disait en préambule, victime d'attentats ou de catastrophes naturelles ou d'accidents dits majeurs, c'est large.
C'est large et j'ai voulu, et c'était surtout la volonté du président de la République lorsqu'il m'a confié cette responsabilité il y a un an, c'était le 12 février 2016, son idée c'était de prendre en charge les victimes de la vie. Alors certes, ça a été produit et provoqué par les attentats de novembre, puisque nous n'avions pas de service public de l'aide aux victimes, mais en fait, on ne peut pas dire demain qu'on va hiérarchiser l'aide de l'État en fonction de l'origine du drame. Quand vous êtes victime d'un accident grave, je pense en particulier au crash aérien de l'Égyptair, qui est un accident collectif. Quand vous êtes victime d'une catastrophe, parce que je me suis aussi occupée des victimes des inondations de juin dernier, qui ont touché un certain nombre de départements, mais vous avez subi un traumatisme, et les psychiatres le savent bien, c'est un traumatisme grave, ça vous bouleverse votre vie quotidienne. Si vous êtes en situation sociale difficile et que vous perdez votre emploi, ça, vous êtes dans une spirale dramatique, et donc la responsabilité de l'État, c'est de vous aider, de vous accompagner dans tout votre processus de reconstruction. Alors ça va des indemnisations quand vous êtes victime d'attentats à retrouver un logement.
Et ça, on va y revenir en détail. Mais vous avez cette expression intéressante, on ne va pas faire de hiérarchie dans les victimes, Juliette Méadel. Thierry Bobet, vous sur le terrain, quand vous êtes au sein de cette cellule d'urgence médico-psychologique, la définition de victime pour vous c'est quoi?
Je dirais que sur le plan psychologique ou psychiatrique, victime, c'est pas un concept pertinent. C'est un concept juridique.
Allez-y, ouais, expliquez-nous.
Voilà, c'est un concept juridique essentiellement. Je pense que M. Gichel pourra aussi en parler. Nous, notre porte d'entrée, c'est les blessures psychiques et principalement les traumatismes psychiques sur lesquels on intervient. Il nous appartient pas de dire qui est victime, qui ne l'est pas, qui mérite quoi que ce soit ou nécessite quoi que ce soit comme prise en charge sociale ou etc. C'est pas non. Nous, on est sur un sujet bien précis. Ces événements provoquent des blessures psychiques, parfois très graves, qui peuvent avoir des manifestations immédiates ou pas, qui peuvent se manifester beaucoup plus tard. Et nous sommes là pour organiser la prise en charge dès les premiers instants et la prise en charge aussi ultérieure si les troubles se manifestent secondairement ou qu'ils deviennent durables.
Stéphane Gichel, en tant que secrétaire général donc de cette Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, vous attendiez la création de ce secrétariat général ?
Alors, pour être totalement franc, on a été surpris, parce que ça n'avait pas été annoncé en amont. Mais en tout cas, ce qui peut caractériser les accidents collectifs et les attentats, c'est le besoin de mesures exceptionnelles, de dispositifs ad hoc, pour être justement à la hauteur et pour répondre à des besoins et à des situations elles-mêmes exceptionnelles. C'est le nombre de victimes. Sur le terrorisme, il faut quand même aussi garder à l'esprit cette particularité que les victimes de terrorisme, à travers elles, c'est l'État, c'est nos valeurs, nos sociétés qui sont visées, d'où une responsabilité de l'État sur un accompagnement de qualité. Mais vraiment, c'est ce besoin de s'adapter pour simplement permettre l'accès effectif aux droits. Puisque si on ne le faisait pas, et c'était ce qui existait dans les années 80 ou 90, où les victimes nous disaient, voilà, il y a la catastrophe et il y a le traitement catastrophique de cette catastrophe, parce que rien n'est adapté justement à la dimension, aux répercussions et au nombre de victimes.
Enfin, on ne laissait pas non plus, Juliette Méadel, les victimes avant la création de votre secrétariat. On ne les laissait pas totalement dans la nature, sans aucun soutien, sans aucune aide. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle instance apporte de plus concrètement ?
Concrètement, qu'est-ce qui se passait avant ? Chaque ministère s'occupait des victimes. Oui, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie, chacun intervenait à son niveau. Mais pour les victimes, ça signifiait le parcours du combattant. Parce qu'il fallait prendre son bâton de perlin, aller réclamer des informations au FGTI, aller voir le juge, déposer sa plainte, aller à sa CEPAM pour avoir le bon certificat et le bon papier, déposer sa demande de logement. Bref, vous aviez un certain nombre d'interlocuteurs différents qui ne se parlaient pas forcément entre eux. Et vous, victime, non seulement vous êtes en souffrance, mais en plus, c'est la double peine parce que c'est le parcours du combattant administratif.
Donc c'est quoi maintenant ? C'est un guichet unique ?
Donc l'objectif, exactement, et c'est ce que nous avons fait en un an, nous avons mis en place un guichet unique des victimes sur Internet. Dans chaque département, avec chaque préfet qui ouvre, il y en a 36 qui ont été ouverts, et tous les départements seront dotés de leur guichet unique avant la fin du quinquennat, donc dans les départements et au niveau national. Seulement, voyez-vous, quand j'ai été nommée, moi, je n'ai pas d'administration exclusivement pour m'aider, je m'appuie sur les administrations des autres ministères. Et le sujet, c'est que le champ est tellement large, le nombre de dossiers est exponentiel. Juste sur les attentats en deux ans, c'est 6000 victimes aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est autant que depuis la création du FGTI depuis 30 ans.
Donc victimes directes et proches et témoins, etc.
Donc ça veut dire que sur les attentats, c'est exponentiel. Et puis il y a une demande pour tous les traumatismes. Et puis alors, du coup, les victimes d'accidents de car vous disent « bah oui, mais pourquoi pas moi ?» Et c'est légitime. Les victimes des inondations sont aussi venues me voir. Et donc j'ai travaillé avec les assurances pour que les assurances, au terme d'une convention, accélèrent les indemnisations. Bref, le besoin est immense. Et c'était précisément pour dire, voilà, tout ce qui a été fait, les associations, les parlementaires, droite et gauche confondues, disent, eh ben en fait, il faut que tout ça soit gravé dans le marbre. Et pour que tout ça soit gravé dans le marbre, il faut que, après l'élection présidentielle, et quel que soit le choix du prochain président de la République,
ce soit maintenu.
Or, un secrétaire d'État aux victimes, vous pouvez très bien décider de ne pas en nommer. En revanche, une administration dédiée, donc un secrétariat général à l'aide aux victimes, une fois qu'il est créé, et c'est ce que nous avons fait par le décret du 8 février dernier, c'est beaucoup plus difficile de le supprimer. C'est pour ça que je suis en train de l'installer, et c'est pour ça que j'ai voulu aussi une structure souple et légère qui puisse à la fois s'adapter, mais en même temps continuer à s'appuyer sur les administrations existantes.
On comprend bien. On repart au standard. Mickaël nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Mickaël, soyez le bienvenu.
Bonsoir, merci beaucoup.
On vous écoute.
J'aurais voulu demander à Madame la Secrétaire d'État, de son administration, est-ce que ça va juste être un gadget, entre guillemets, qui joue sur l'émotion, ou qui remplace, ou qui fait redondance par rapport à des systèmes existants, ou est-ce que son administration va vraiment compter des gens, et combien, et quel sera son budget, entre guillemets, quelles seront ses missions particulières par rapport à ce qui existe déjà?
Alors, aujourd'hui, ce que nous avons fait très concrètement, c'est que, par exemple, nous avons amélioré les indemnisations. Nous allons plus rapidement, nous individualisons la prise en charge, et tout ça, ça demande un travail précis. Nous intervenons également, par exemple, pour aider à obtenir des logements en situation difficile. Nous intervenons encore aujourd'hui pour pouvoir permettre aux victimes d'attentats, par exemple, de retrouver un emploi plus facilement. C'est un chantier, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais nous intervenons de ce point de vue-là. Nous aidons aussi les victimes d'inondations. On en a parlé, et donc nous suivons dans chaque département où en sont les indemnisations. Je pourrais aller loin aussi sur la question de la coordination de l'accompagnement des victimes d'accidents de transport. Je vous ai parlé d'Égyptair, qui est ce crash qui a eu lieu il y a quelques mois, mais il y a eu par exemple Puy-Seguin, que Stéphane Gicquel connaît bien, il y a l'accident de train d'Eckversheim. Tout ça, ce sont des victimes dont il faut s'occuper, et nos partenaires... Ce ne sont pas toujours les victimes directement, ce sont les associations qui, elles-mêmes, jouent ce rôle. Autrement dit, tout le travail qui est fait, c'est un travail où nous cherchons à régler les sujets de façon très concrète. L'émotion, oui, certes, c'est nécessaire, mais moi j'ai l'habitude de dire que les victimes ont moins besoin de compassion que d'action. Et c'est là-dessus que nous sommes jugés. C'est que nous voulons justement les aider
à
réagir
avec Thierry Bobet,
et à régler concrètement leurs difficultés.
Juste avant de vous donner la parole, Thierry Bobet, un autre Thierry, auditeur, celui-là qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Thierry.
Bonsoir. Question à Madame le Ministre. Cessons de faire de la politique dans l'affaire de cette boucherie de Lyon. Pourquoi l'État et la ville de Nice se renvoient la balle? J'aimerais avoir une réponse précise et carrée.
Ah, vous parlez de l'attentat de Nice le 14 juillet, Thierry.
Absolument, la boucherie de Nice.
Réponse de la secrétaire d'État à l'aide aux victimes, Juliette Méadel.
Voyez-vous, juste après les attentats de Nice, nous avons pris justement ce premier décret. Ce décret qui dit que nous créons dans chaque département ce qu'on appelle un comité local de suivi des victimes. Autrement dit, un guichet unique qui met autour de la table tous les partenaires. Les associations, les représentants des médecins, des hôpitaux, le fonds qui indemnise, tout ça sous la responsabilité de l'État. Et justement, personne ne se renvoie la balle sur l'aide aux victimes. Il y a un travail qui a été un travail, je dois dire, très complémentaire entre l'État et la mairie de Nice, mais aussi le conseil départemental des Alpes-Maritimes, parce que nous considérons, et moi c'est ma vision, que l'aide aux victimes n'a pas à souffrir des bisbilles politiciennes. Et là-dessus... Tout le monde a travaillé main dans la main et nous sommes en pleine complémentarité. Et je vais vous donner ne serait-ce qu'un exemple. J'ai signé une convention avec l'UNCAS, qui est l'Union Nationale des Centres d'Action Sociale, et précisément avec l'élu de Nice, qui est la présidente de l'UNCAS et avec laquelle nous mettons en place dans toutes les communes une aide sociale pour les victimes de terrorisme et d'accidents collectifs.
La question très précise de Pierre Arcachon sur franceinter.fr qui vous est visiblement adressée, Thierry Bobet. Pierre nous demande, en fonction des événements traumatisants vécus, accidents ou attentats, les attentes et les besoins sont-ils les mêmes, nous demande Pierre. On imagine que non, a priori.
Non, bien sûr, les attentats ont un impact particulier. D'abord parce qu'elles visent des individus. Alors il s'agit d'actions menées par d'autres êtres humains avec une intentionnalité humaine de faire du mal et de nuire. Et donc d'autres qui vous regardent dans les yeux en vous disant je te fais ça et je t'anéantis. Et ça, cette volonté, cette intentionnalité humaine a un impact beaucoup plus délétère, cause des blessures encore plus profondes que des accidents qui seraient liés à la malchance ou à un problème technique. Donc il y a un effet spécifique. Et dans ces attentats, bien sûr, les gens sont visés, mais au-delà des individus, c'est aussi tout leur environnement qui est visé, c'est la société qui est visée, c'est les groupes d'appartenance qui sont visés. Donc l'effet est en général plus profond.
Je vous soumets à tous les trois, peut-être à vous d'abord Stéphane Jiquel, cette question de Marc par courriel. Marc nous dit « Je trouve totalement justifié que les victimes d'attentats soient indemnisées en cas de handicap ou d'invalidité par exemple. En revanche, je ne comprends pas bien pourquoi on indemnise les familles et je comprends leur chagrin, mais cela justifie-t-il une indemnité ?»
Alors c'est une question de fond hein, que l'on voit souvent poser, c'est-à-dire finalement le préjudice moral ou le préjudice d'affection quand on perd quelqu'un, ça n'a pas de fondement puisque la personne n'a pas de prix. Mais le préjudice d'affection, c'est pas de donner un prix à la vie de la personne décédée. C'est simplement une reconnaissance. Et le terme de reconnaissance, il revient très souvent dans la bouche des victimes. Et c'est vrai que dans notre société, la reconnaissance, ça passe aussi par une indemnisation. Et puis il faut aussi être très pragmatique. Un décès, ça a des conséquences, bien sûr, en termes de souffrance, de douleur, mais aussi des conséquences très pratiques dans la vie. Il faut, par exemple, si vous perdez votre conjoint, ça veut dire que demain, il faudra peut-être déménager parce que à un salaire, vous n'allez pas assurer le maintien, dans les lieux. Il y a aussi les enfants. Enfin, c'est vraiment des problématiques très complexes. Et l'indemnisation, c'est aussi la reconnaissance de toutes ces difficultés du quotidien, de mettre finalement une réponse face à cette difficulté. Donc, c'est vraiment pas aussi simple. Et je crois pas qu'on est dans une histoire d'argent, mais on est dans une histoire de permettre à ces personnes de continuer à vivre. Et pour nous, par exemple, un orphelin qui ne pourrait pas faire des études, c'est une victoire posthume du terrorisme.
Vous parlez de reconnaissance, Stéphane Jiquel. Il y a deux nouveaux préjudices, Juliette Méadel, qui devraient être reconnus. C'est le préjudice d'angoisse ou d'anxiété. Ça, c'est pour les victimes. Et le préjudice d'attente et d'inquiétude pour leurs proches. Où est-ce qu'on en est?
Alors, ces préjudices sont reconnus. La difficulté de l'exercice maintenant, c'est qu'il faut savoir comment on les chiffre, comment on les évalue. C'est pour ça que j'ai confié...
Ils sont reconnus, mais pas gravés dans le marbre.
Alors, ouais. Ils sont reconnus comment? Ils sont reconnus ne serait-ce que parce qu'il y a des jurisprudences et des juges qui ont indiqué que dans le cadre d'accidents, par exemple celui de Puisseguin, le préjudice d'angoisse et d'attente avait été indemnisé. Et sur le fondement de ces jurisprudences-là, et après avoir travaillé à partir du livre blanc des avocats, j'ai confié à une commission indépendante avec des magistrats de la Cour de cassation et des experts la charge de dire comment on fait pour évaluer ce préjudice d'angoisse et d'attente. Ils doivent me rendre leur rapport dans quelques jours.
Je me tourne vers le professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Thierry Bobet. Expliquez-nous ce préjudice, d'angoisse côté victime et donc préjudice d'attente pour leurs proches. C'est pas forcément clair pour tout le monde.
Écoutez, c'est pas un psychiatre qui va vous répondre sur cette question de préjudice. Hein. Nous, ce n'est pas notre.
Alors, juste angoisse et juste attente.
Ce qui est important pour, je pense, c'est de bien comprendre l'expérience des personnes qui sont confrontées à ce type d'événement. Alors, pour ça, on a notre expérience clinique, on a ce qu'on sait de la littérature, c'est-à-dire que. Il y a un trouble qu'on rencontre fréquemment qui est le trouble de stress post-traumatique, qui quand il s'installe et qu'il devient durable, qui est un trouble qui va causer des difficultés importantes dans toutes les sphères de la vie de la personne, que ce soit sa vie affective, sociale, familiale, professionnelle, etc. Les conséquences sont vraiment très lourdes. Maintenant, tout le monde ne développe pas de tels troubles après des événements. Donc, nous sommes engagés, notamment avec Santé publique France, qui est l'agence de santé publique, et différents partenaires, dans un travail de recherche sur le vécu et l'expérience des personnes qui ont vécu les attentats de janvier et de novembre. Nous commençons à obtenir des résultats, mais nous allons avoir des données sur environ 2000 personnes directement exposées aux attentats. Et nous allons pouvoir sans doute avancer sur la compréhension de l'expérience du traumatisme, mais aussi de l'expérience du système de soins et d'aide par les personnes qui l'ont directement utilisé.
Mais il y avait eu l'étude Impact dans la foulée des attentats de janvier, cette fois 2015, Impact au pluriel, qui avait clairement montré toute l'importance de la rapidité de la prise en charge. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des missions et des priorités de votre secrétariat d'État ?
C'est un point essentiel, parce que l'aide aux victimes démarre dès les premières minutes du drame. Contrairement à ce qu'on peut penser intuitivement, l'aide aux victimes, c'est pas quelques jours ou quelques semaines après. En vrai, tout démarre tout de suite, parce que les psychiatres le savent mille fois mieux que moi, si vous ratez la première prise en charge, si vous ratez les premiers mots qui vont vous permettre d'écouter, d'orienter, de prendre en charge, souvent le suivi et l'accompagnement se passent pas bien. Alors il existe des dispositifs depuis des années, puisque ça avait été lancé par le professeur Croc il y a plus de 20 ans, qui s'appellent les CUMP, et Thierry Bobet en parlera mieux que moi, qui sont ces cellules d'urgence médico-psychologiques, et qui sont capables tout de suite, dès la survenance du drame, d'avoir des psychiatre compétent pour, le cas échéant, avoir une prise en charge médicamenteuse si le trouble est trop important, mais en tout cas d'avoir les mots qui apaisent. Et puis les associations savent aussi, parce qu'elles ont des psychologues bien formés pour cela et parce qu'elles sont elles-mêmes formées dans la façon dont elles reçoivent la souffrance, savent tout de suite comment faire pour préparer le suivi. Donc là, l'aide aux victimes, c'est tout de suite, dès les premières secondes que ça se joue.
Plus on attend, Thierry Bobet, plus on prend de risques d'avoir un traumatisme, ultérieur, plus fort ou plus difficile à vaincre.
Alors, oui, pour certains patients. Pour autant, comme je vous disais, tout le monde n'est pas traumatisé par un même événement. Certains ont une blessure psychique immédiate qui va se traduire par différents troubles et vont avoir besoin d'un accueil et d'un espace de parole et de compréhension immédiat. D'autres vont ne manifester aucun trouble dans les premiers jours et vont refuser toute aide en disant non, mais moi ça va. Et chez eux, des troubles peuvent se manifester secondairement, ce qui veut dire que ces dispositifs qui fonctionnent bien maintenant dans l'urgence, donc avec les CUMP, dans le cadre des SAMU, le problème qui se pose, c'est de la fin de leur mission au bout de quelques semaines, au bout d'un mois. On voit arriver encore aujourd'hui dans nos services des patients qui cherchent de l'aide pour la première fois suite aux attentats de novembre. Alors ce qui peut les empêcher de demander avant, c'est plusieurs choses. D'abord, il y a les symptômes même des troubles post-traumatiques, notamment la question de l'évitement, c'est qu'on fait tout pour essayer de ne pas y penser, de ne pas y repenser. Et puis il y a aussi des sentiments de culpabilité, de honte, qui sont fréquents chez les personnes qui ont des troubles post-traumatiques et qui peuvent faire qu'il leur faut très longtemps avant de demander de l'aide.
On repart au standard. Nathalie nous appelle des Landes. Bonsoir Nathalie, soyez la bienvenue.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel. J'aimerais que soit évoquée la situation des victimes d'effets indésirables graves de médicaments. Je parle bien de gravité, je parle bien de victimes, je parle bien de victimes qui sont férielles. Alors certes, pour le médiateur et bientôt pour la dépakine, il y a des systèmes d'indemnisation qui sont mis en place ou qui vont se mettre en place. Mais il y a d'autres victimes d'effets indésirables graves de médicaments. Je pense aux personnes qui développent un syndrome de l'aïeul, hein, où il y a 30% de décès, et pour les survivants, il y a des séquelles invalidantes qui peuvent aller jusqu'à la cécité, notamment. Je pense aux victimes du Diskilben, hein, les 80 000 femmes exposées in utero au Diskilben en France. Elles peuvent avoir eu des cancers, elles souffrent de séquelles très invalidantes de leur cancer ou de traitement. Je pense aussi aux petits-enfants d'Iskilben, qui souvent naissent prématurément et donc sont porteurs d'infirmités motrices cérébrales. J'aimerais que le secrétariat d'État aux victimes prenne également en compte ces victimes-là. Il n'est pas forcément possible d'intenter des procédures judiciaires. Quand elles sont intentées, elles durent souvent 10 à 15 ans, mais elles ne sont pas de toute façon toujours possibles. Voilà, qu'est-ce qui peut être fait pour que ces personnes ne soient pas oubliées? J'entendais tout à l'heure que la notion de vouloir faire du mal à autrui était très très destructrice. On n'est pas dans cette situation-là pour les victimes d'effets indésirables graves de médicaments. En revanche, ces victimes sont confrontées au déni.
Merci beaucoup Nathalie d'ouvrir encore un peu plus le débat ce soir. Les victimes d'effets donc graves de médicaments, Juliette Médel.
Vous avez madame tout à fait raison, c'est ce que vous avez très bien qualifié de victimes d'accidents sériels qui font partie du champ d'application du secrétariat général que je viens de créer. Il y a à l'évidence sur la prise en charge de ces victimes pas assez de une prise en charge très défaillante au-delà même de l'indemnisation que vous avez souligné à juste titre, il y a toute la reconnaissance d'abord de la souffrance, du préjudice, des conséquences qui, en particulier, je pense au distilbène, mais c'était aussi le cas de la dépakine, affectent non seulement la vie de la mère, mais la vie des enfants, et c'est toute leur vie, la vie de l'entourage. Bien souvent, on est dans des procédures judiciaires qui durent avec des acteurs qui sont les laboratoires pharmaceutiques, qui sont des acteurs privés, qui sont très bien outillés en avocats et qui ne permettent pas aux victimes de se défendre. La class action que ce gouvernement a permis de voter permettra, je n'en doute pas, et à condition que, évidemment, les victimes aidées par des associations puissent intenter des actions de groupe large, j'espère rétablir les choses, mais en tout cas, la responsabilité de l'État, et c'est la mission que je suis en train de définir pour le secrétariat général, ça sera d'avoir une prise en charge adaptée, une reconnaissance, un suivi, une accélération et un projet qui serait l'élaboration, peut-être, et j'y travaille, d'un fonds dédié à l'indemnisation des victimes d'accidents sanitaires ou d'accidents médicamenteux. Alors, ceci étant dit, il existe, vous le savez, des procédures. Il y a l'ONIAM aujourd'hui, qui est cette autorité publique, qui est chargée d'indemniser au-delà même, et pour éviter les délais trop longs devant le juge, mais il faudra aller beaucoup plus loin, et hélas, c'est un sujet qui touche des dizaines de milliers de personnes.
Mais ça fait d'ores et déjà partie du champ de compétences et d'action du secrétariat.
Absolument, dans le champ de compétences et d'action du secrétariat général. Moi, hélas, pour le secrétariat d'État, il ne reste que 2 mois et demi, mais je suis en train de définir une feuille de route sur ces questions-là. Je vois les associations de victimes et de patients, notamment de la dépakine. Et nous sommes en train de bâtir un projet très précis, de telle sorte que le successeur puisse mettre en œuvre tout de suite.
Stéphane Jiquel, sur la demande de Nathalie.
Tout à l'heure, le professeur Bobet expliquait finalement ce qui est important, c'est le vécu des victimes. Et c'est vrai que pour les accidents sériels, nous intervenons un petit peu sur les accidents sanitaires, notamment sur les irradiations en milieu hospitalier, sur les essais biotrials. C'est vraiment le mécanisme de la catastrophe qui se distingue de l'attentat. C'est-à-dire que c'est la confiance trahie. C'est-à-dire qu'on a tous un rapport au risque dans notre société et puis on se dit, voilà, quand je prends l'avion, quand je suis comment dire, un traitement médical, bah c'est peut-être risqué, mais j'ai confiance dans la personne qui me suit, notamment d'un point de vue médical. Et finalement, ces scandales sanitaires révèlent que cette confiance, finalement, on en a abusé et qu'il y a des manquements, que finalement, ce qui devait bien marcher avec notamment les contrôles, les agences du médicament, ne fonctionne pas. Donc, il est aussi important, finalement, d'avoir aussi l'État aux côtés de ces victimes. Le traitement du Mediator, ça a été un véritable scandale. C'est-à-dire qu'on a mutualisé les pertes. Et par contre, les entreprises, elles gardent le profit. Donc, il faut un État fort, un État régulateur. Et ça, c'est une attente extrêmement importante des victimes.
On repart au standard. Christiane nous appelle de Vendée. Bonsoir, Christiane.
Oui, bonsoir à tous. Et puis, merci pour vos émissions. Donc, je serais plutôt favorable, avec tout ce que j'ai entendu par ce secrétariat. Mais il ne faudrait pas non plus que ce secrétariat, si vous voulez, se substitue aux assurances, puisque nous payons quand même très cher d'assurance, hein, pour le quotidien, pour la maison, enfin bon, pour tout ce qui fait notre vie en commun, et également non plus que ce secrétariat se substitue également à nos propres responsabilités en amont. Donc on a quand même, je sais bien, bon, dans certaines catastrophes, là c'est complètement indépendant, donc le secrétariat a toute son utilité, mais bon, les assurances aussi, il ne faudrait pas que l'on paie et nos assurances et ce secrétariat
fois,
au travers de nos impôts en plus, voilà.
Mais on comprend parfaitement, Christiane. Juliette Méadel vous répond.
Précisément, l'objectif, quand j'ai signé la convention pour indemniser les victimes des inondations de juin dernier, notamment en Île-de-France, c'était de faire en sorte que les assurances accélèrent les délais de prise en charge et les délais de règlement des préjudices qui étaient subis par les sinistrés. Et vous avez tout à fait raison de pointer ce risque, car le risque pourrait être que les assurances estiment qu'il est de la responsabilité de l'État d'indemniser les victimes de catastrophes naturelles. Mais il y a un régime, le régime catastrophe naturelle, qui définit précisément la responsabilité de chacun. Et notre rôle, nous, pouvoir public, c'est justement de stimuler, d'accompagner, d'orienter, de veiller à ce que les assurances honorent bien leurs engagements. Et je vais vous donner un exemple très concret. J'ai signé cette convention avec les assurances au mois de septembre. Il y avait entre 50 et 60% des sinistrés qui avaient reçu des premières indemnisations. Trois mois plus tard, nous sommes retournés sur le terrain, toujours avec les assurances, et le taux avait augmenté, était passé à 80%. C'est leur métier aux assurances, mais c'est encore mieux d'être accompagné par l'État, et c'est encore mieux d'être dans un dispositif donnant-donnant, où de toute façon, que ce soit pour les sinistrés, que ce soit pour l'État, que ce soit pour les assurances, le temps est l'ennemi commun, c'est-à-dire qu'il faut régler les sinistres le plus vite possible, et c'est aussi le rôle de l'État que d'orienter les assurances et de veiller à ce qu'elles remplissent bien leurs contrats.
Question sur internet franceinter.fr. Dominique à Sedan nous demande: quel manque, quelle lacune dans la prise en charge des victimes, notamment d'un point de vue psychologique, ont révélé les attentats du 13 novembre? Thierry Bobet.
Alors, ces attentats ont révélé des capacités de mobilisation et d'organisation insoupçonnées dans l'urgence. On n'avait jamais fait face à des événements d'une telle ampleur depuis que les CUMP existent. Près de au moins 4 à 5 000 personnes ont été vues dans le premier mois dans les différents sites de la région parisienne par des psychologues et des psychiatres. Les difficultés sont d'abord que toutes les personnes affectées et blessées ne se rendent pas dans ces systèmes. Ça, c'est, on ne doit pas imaginer qu'on voit tout le monde, hein, c'est pas le cas. Et puis ensuite, la question qui se pose, c'est comment on passe de cette phase d'urgence à la phase des soins plus durables pour ceux qui ont besoin de soins durables, de psychothérapie.
Ça se passe comment ?
Eh ben, ça se passe que après cette phase du premier mois de mobilisation exceptionnelle, les victimes se retrouvent face au droit commun finalement, hein, et aux difficultés qu'on peut avoir dans certaines régions pour trouver une aide sur le plan psychiatrique ou psychologique. La question a été particulièrement criante à Nice concernant les enfants, avec des capacités de prise en charge qui ont été très très vite débordées. La difficulté d'accès à des psychologues qui sont peu ou pas remboursés par la sécurité sociale. Enfin, je pense que sur ce travail entre l'articulation entre l'urgence et la post-urgence, on a du travail à faire, mais c'est du travail qu'on est en train de faire.
Stéphane Giquette, je vous repose la même question, mais juste en enlevant le terme psychologique. Qu'est-ce que ça a révélé comme lacune, les attentats du 13 novembre ?
Ça, aujourd'hui, on a un système qui est assez complet, même très complet. Mais aujourd'hui, le fait qu'il soit complet est aujourd'hui complexe et induit des difficultés. Je pense que ce qu'il faut faire, bien évidemment, ce secrétaire général à l'aide aux victimes, c'est une bonne chose. Il n'a pas besoin d'une administration extrêmement importante, tout simplement parce que d'abord, il doit être. Alors, j'aime pas le terme. Il doit avoir une fonction de management des ministères. Et c'est difficile. Hein, c'est difficile parce que chaque ministère a son histoire, chaque ministère a sa culture. Et c'est vraiment parfois il y a des vraies cloisons, des vraies citadelles peut-être à prendre. Mais je pense qu'il faut travailler sur des outils communs, sur des règles partagées et transparentes. On voit bien, par exemple, victime, moi je ne vais pas avoir la même perception de la victime que le professeur Bobet. Et donc il faut encore et toujours travailler sur ce socle commun, sur cette boîte à outils commun, pour qu'on parle de la même chose. Et puis aussi, il faut accepter l'idée qu'il n'y a pas un parcours unique. Il y a des parcours multiples, mais avec le point commun qu'il faut apporter de l'humanité. Moi, je ne parlerai pas de soutien psychologique, je n'y connais rien, mais je parlerai d'humanité, puisque l'attentat, la catastrophe, par définition, sont déshumanisants. Donc, il faut mettre de l'humanité. Et cette belle formule de Patrick Peloux de dire, voilà, très vite prendre la main de la victime et lui dire qu'on va plus la lâcher. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que le 13 novembre a mis un focus particulier sur la nécessité du suivi dans la durée, dans la très longue durée.
On part à Lille, où nous attend Jean-François. Bonsoir Jean-François, nous vous écoutons.
Bonsoir, voilà, je vous salue, je vous remercie de prendre mon appel. Je suis responsable d'un service aux victimes qui est basé dans le versant nord-est de la métropole, qui fait partie du réseau INAVEM France Victimes, qui regroupe les 130 services aux victimes, les 1500 professionnels, composés de psychologues, de juristes, de cliniciens, de travailleurs sociaux. On va dire qu'on aide à peu près 95% des victimes d'infractions pénales, d'accidents collectifs et même de terrorisme. Je voulais aussi faire un rappeler à toutes les personnes qui peuvent être victimes que on est à leur disposition dans les commissariats, dans les tribunaux, dans nos sièges, en tout lieu on peut assurer des permanences, et que pour nous joindre, eh bien, il suffit de composer le 08 victime, on va demain inaugurer une petite application, une application qui s'appelle Aidez-moi. Qu'on peut installer sur les smartphones pour trouver les lieux.
Jean-François, excusez-moi, mais on approche du terme de cette émission. Que pensez-vous simplement de la création de ce secrétariat ?
Nous, on s'en félicite. On s'en félicite parce que c'est vrai qu'on est un petit peu le bras séculier du ministère de la Justice parce qu'on est conventionné, habilité pour le faire. Mais il y a eu des attentats. Il a fallu qu'on se coordonne, qu'on travaille ces sujets, qu'on prenne en charge des victimes, et ça va permettre de conserver tout ce qui était mis en œuvre et effectivement, j'en profite pour saluer la secrétaire de victimes, hein, de tout ce qui était mis en place, puisque il y avait un manque, même si on avait beaucoup œuvré, et effectivement, ça pouvait être extrêmement nuisible pour la bonne prise en charge de toutes les victimes d'accidents collectifs et de terrorisme.
Merci Jean-François. Juliette Méadel, là effectivement, on parle des INAVEM, mais vous travaillez avec énormément, c'est la mission même aussi de ce secrétariat d'aide, c'est travailler avec toutes les associations sur le terrain. Vous bossez, vous travaillez avec INAVEM, entre autres ?
Bien sûr, nous avons des partenaires officiels, si je puis dire. L'INAVEM en est un, anciennement créé par Robert Badinter, sur une compétence qui est une compétence infraction pénale, terrorisme, qui est notre partenaire, qui dispose de son réseau, de 130 associations locales. La FENVAC, représentée ici par Stéphane Jiquel, qui est aussi une association de victimes, puis d'aide aux victimes, qui a une spécificité un peu accident collectif, qui est une compétence nouvelle, mais aussi une compétence terrorisme. Une autre, la FVT, pour citer par exemple ces trois-là, l'association française des victimes de terrorisme. Donc, c'est trois associations qui sont des professionnels de l'aide aux victimes, même si chacun a son histoire, sont nos partenaires officiels. Et puis, après, vous avez des associations de victimes ad hoc par événement. Par exemple, Life for Paris pour le 13 novembre ou 13 Fraternité et Vérité ou encore Promenade des Anges. Puis après, il y a des victimes qui n'ont pas du tout envie d'être dans des associations, qui nous contactent, que je reçois. Moi, j'ai des permanences à mon secrétariat d'État tous les jeudis matins. Et puis, nous suivons, nous aussi, nous avons suivi 300 cas particuliers au secrétariat d'État. Nous sommes intervenus sur des dossiers ponctuels où ce sont des personnes qui vous disent « Mais moi, j'ai besoin qu'on m'aide, c'est l'État qui doit m'aider. Je suis pas dans une association, mais il faut qu'on m'aide. » Et c'est nous, c'est aussi notre devoir. Mais vous avez raison de le souligner. Moi, j'ai conçu tout ce que j'ai mis en œuvre depuis un an avec les associations qui sont des partenaires et avec lesquelles j'ai co-construit toutes les réformes que nous avons adoptées.
J'aimerais juste vous livrer ce commentaire de Cédric à Asnières-sur-Seine. On n'aura pas le temps de le prendre à l'antenne. En pleine élection, nous dit Cédric, est-ce que d'autres candidats veulent reprendre l'activité de ce service d'État que cette dame, dit-il, nous présente ? Si c'est abandonné, eh bien, ce serait vraiment dommage, nous dit Cédric.
Mais c'est pour ça qu'on crée le secrétariat général à l'aide aux victimes. Cédric a raison.
Le pérenniser.
Personne ne pourra le supprimer, en tout cas, je l'espère.
Merci beaucoup à tous les trois. Juliette Méadel, secrétaire d'État, donc à l'aide aux victimes. Stéphane Jiquel, secrétaire général de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Et merci Thierry Bobet, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Paris 13 et chef de service à l'hôpital Avicenne. Dans une poignée de secondes, un nouveau journal sur Inter.